Vous écoutez
RMC.
RMC.
C'est voilà. Magnifique comme déclin, c'est clair comme Claire Chazal.
Arrêtez sur la positivité, attitude positive. Voilà.
4 occasions franches, 5 tirs au but, 14 centres. Ouais, ça va, ils n'ont pas non plus joué avec le reculoir.
Je suis arrivé dans l'after prod de manière assez particulière. Genre, ce genre, j'ai rien à foutre là, c'est ça que tu veux dire ?
On est tous, il est là-dessus, je suis couché.
20h-22h, Génération After.
Nicolas Jamain.
Sur RMC, on est heureux d'avoir ce soir à nos côtés Adil Rami, Kevin Diaz est là
très
aussi.
Très bon Adil Rami.
Excellent.
Ah, merci.
Tu m'as dit, je suis pas sûr, et on verra, et en fait, c'est très bien, quoi.
Ouais, même ce matin, il m'a envoyé un message.
Il m'a dit, ouais, Adil je le ramène, bon, on va voir. Mais
ça fait deux mois, je vous dis, faut qu'on ramène Adil Rami quand il parle foot, c'est très très bien.
Ah, il me l'a dit de toute façon, Walid. Mais merci, oui, Walid.
Plaisante, on voulait le mettre un peu mal, quoi, un peu dans la sauce.
Ouais.
Walid. Jimmy est là aussi, Jimmy Brown, jusqu'à 22h.
Très bon Jimmy Brown aussi.
Jimmy, mais c'est Génération After.
C'est exceptionnel.
C'est l'architecte de l'émission, Jimmy. On le dit pas assez.
C'est vrai. C'est vrai.
Et en plus, Jimmy a eu son permis de conduire aujourd'hui.
C'est pas vrai, Jimmy.
Non.
C'est incroyable.
Je pensais pas que ça allait arriver un jour. Ouais.
Mais tu vas conduire
dans Paris. J'embrasse Fiti, d'ailleurs, mon moniteur de l'OM.
Mais tu vas conduire dans Paris?
Je vais conduire dans Paris, ouais, j'espère. En fait, si tu veux, ma meuf, elle me mettait dehors. Ça fait 10 ans qu'elle me conduit. À un moment donné, il fallait avoir le permis.
Je vais dire un truc. Ce jour, j'habite à Paris maintenant.
Tu conduis jamais, tu peux pas conduire.
Vélo électrique, tu peux pas conduire. Vélo électrique,
c'est le bonheur.
Et ça change la vie à Paris.
Tu mets un casque,
ouais, mais moi j'ai des enfants en bas âge, t'as besoin.
Je veux rester coiffé. Hein.
Par contre, faut mettre un casque.
Ouais, mais.
Faut mettre un casque
pour ceux qui nous écoutent.
Je t'ai vu la dernière fois en plus, t'avais un casque.
En scooter ?
Oui, non, en vélo électrique.
Ah oui, oui, oui.
Oui, oui. Mec, j'essaye de le sauver et tout. En scooter.
Là, ce matin, je l'ai vu arriver, il a un casque.
Exactement, un casque audio.
Bon, Adrien Rabiot, lui, est arrivé en jet à Milan aujourd'hui.
Pas besoin de casque.
Si ça, peut-être sa mère est un casque aussi, tu vois, c'est elle qui le protège toutes les attaques médiatiques, effectivement. Adrien Rabiot, donc, est arrivé aujourd'hui avec sa mère et agent Véronique.
Ouais.
Elle arrive. Rappelez-vous qu'elle arrivait à Turin. J'ai rappelé de ça aujourd'hui en 2019. Quand il signait la Juve, sa mère et agent avaient refusé de quitter l'avion parce qu'elle avait vu une caméra, alors qu'elle avait exigé auprès de la Juve qu'il n'y ait aucun journaliste sur le tarmac de l'aéroport. Donc elle dit, on descend pas de l'avion. Ils sont restés longues minutes dans l'avion. Finalement, Paratici à la Juve à l'époque l'appelle. Non mais c'est une caméra du club. C'est pour la télé interne du club.
Ah, je me rappelle de ça.
Rappelle de ça. Elle dit ah ok désolé. Bon c'est bon Adrien, on peut sortir. Et là aujourd'hui, elle arrive à Milan avec son fils.
Bah, elle avait expliqué pourquoi elle voulait pas de caméra ou pas du tout à l'époque.
Je crois qu'elle aime pas trop ça.
Elle aime pas les médias.
Et aujourd'hui, donc, malheureusement, Milan travaille peut-être un peu moins bien que la Juve pour l'arrivée d'Adrien Rabiot. Il y avait plein de journalistes italiens qui étaient avec leur micro et ils sont allés la voir directement. Ils ont posé une question. Ils l'ont demandé si Milan était le premier choix de son fils. Écoutez, alors c'est plus visuel, mais écoutez quand même le ton de Véronique Rabiot.
He's always the first choice of your son qui came to Milan.
Qu'est-ce qu'il veut que je lui dise?
Bien sûr
que c'est le premier choix.
Voilà, c'est court, hein. Véronique Rabiot. Pas toujours avec nous.
Pas toujours avec nous. C'est Véro, c'est Véro.
Regardez l'image, l'expression de visage, elle est dingue.
C'est Véro.
Ce qui est incroyable, c'est qu'elle dit, qu'est-ce qu'il veut que je lui dise?
Qu'est-ce qu'il veut que je lui dise?
J'ai pas envie de lui répondre ce que j'ai envie de répondre, mais lui, il veut que j'y réponde quoi?
Ça me fait penser à quoi? Ça me fait penser à une vidéo légendaire d'Anthony Knockert et Riyad Mahrez à Leicester à l'époque, où en fait, en gros, t'as Anthony Knockert qui sait parler l'anglais et pas Riyad Mahrez. Et en gros, il y a un journaliste qui vient et qui lui pose une question et Riyad Mahrez ne comprend pas, en fait, ce que dit le journaliste. Et Anthony Knockert lui répond à la question et lui dit vas-y, dis-lui ce que tu veux. Et lui dit dis-lui ce que tu veux, vas-y, dis-lui un truc bien, etc. Ah. C'est bon, la vidéo, elle est exceptionnelle.
Mais ça rappelle également.
Rugby,
comme il s'appelle, notre star, 15 de France.
Antoine Dupont?
Non, l'ancien. Chabal, non.
Michalak.
Michalak. Qui a Coupe du Monde, Nouvelle-Zélande. Question qui dure 2 minutes en anglais. Il s'ennuie. Bon, écoute, réponds-lui ce que tu veux. Je m'en fous au traducteur. Il se casse comme ça.
Ah ouais, magnifique. D'accord, okay.
Toi, t'es trilingue? Quadrilingue maintenant, non?
Moi, je suis polyglotte.
T'es polyglotte, hein?
Ouais.
Espagnol, français.
Anglais, italien.
Italien.
Mon anglais, il est bancal, mais il est très bien. Il fait rire. Faut le garder.
Alors.
The ball.
Parlons quand même d'Adrien Rabiot. T'avais bonne relation avec Adrien Rabiot, ça a été?
Moi, quand j'ai joué avec lui en équipe de France,
ouais,
ça se passait très très bien.
Ouais.
Et je vois pas, et j'ai du mal à voir ce qu'on dit de lui.
Tu vois un décalage entre ce qu'on dit et ce qu'il est.
Ben, par exemple, en équipe de France, moi je me fie à ce que je vois et ce que j'ai vécu. Quelqu'un de respectueux, de gentil, ben, c'était il y a longtemps. Peut-être qu'entre-temps, tu sais pas, on change, l'humain change, l'être humain change.
Attends, le vestiaire était unanime à Marseille, même quand il est parti.
Mais très respectueux, un très gros bosseur, c'est quelqu'un de réservé. Après, quand il y a un truc qui va pas, et moi je trouve ça bien, il dit ce qu'il pense. Ouais, des joueurs comme lui, comme Flo Thauvin aussi, ils disent ce qu'ils pensent. Ça veut dire qu'il n'y a pas de vice, ils ne parlent pas dans le dos, il n'y a pas de. Dans les vestiaires, parfois, c'est un peu vicieux.
Toi, t'étais un peu vice là.
Pas du tout. Alors, moi, rien à foutre, je fais rire tout le monde. Quand dans le vestiaire, il y avait des embrouilles ou autres, j'avais besoin de.
Mettre de l'humour.
De gérer. Non, ouais, pour qu'on ait une belle énergie, des belles ondes. Quand j'avais un joueur qui venait d'arriver, qui était un petit peu perdu ou autre, ben, je me rapprochais de lui pour que vraiment il se sente important dans l'effectif. Mais en tout cas, Adrien Rabiot, pardon, c'était quelqu'un de, voilà, de bosseur, de respectueux. Alors, il était un peu réservé parfois. Ah, très grand joueur, ça, j'ai pas besoin de le dire, les gars, hein. C'est vraiment un.
Pour toi, c'est très grand joueur,
franchement. Ah ouais, franchement, ouais. Quand tu joues avec lui sur le terrain, ses contrôles de balle, sa manière de jouer, de se retourner, de jouer simple.
Physiquement aussi, physiquement, un athlète.
Ouais.
Son corps est utilisé.
C'est assez costaud. Moi, j'aime beaucoup. Il faisait du bien à l'Olympique de Marseille, vraiment.
Il fait la carrière qu'il aurait dû faire?
Moi, okay. Je pense. Non,
c'est une belle carrière.
Je trouve qu'il fait une très belle carrière. Hein. Est-ce qu'il aurait jamais posé la question.
Est-ce qu'il n'aurait pas pu faire mieux quand on l'attend au PSG, etc. Dans, à un autre poste, peut-être. Il y a pas mal de questions là-dessus. S'il peut jouer un peu plus bas. Est-ce que. Alors, attention, il fait une carrière Juventus, AC Milan, Marseille, très équipe de France, etc. Mais est-ce que toi par rapport à ce que tu en attendais ou ce que tu voyais à l'époque.
Je trouve que sa carrière est cohérente avec ce que j'ai vu. Le premier qui m'a parlé de Rabiot, je lui ai posé la question il y a très longtemps quand il a commencé au Paris Saint-Germain. Et je lui dis, il est comment on parle de lui et tout. Il me dit, je te jure, c'est choquant. C'est Jérémy Ménez. Je dis, mais en quoi il est choquant? Mais il dit, tu verras, il perd pas la balle. Tu verras, c'est carré. C'est
fluide. Il perd très peu la balle.
Et c'est exactement ça, en fait.
C'est une lessive. Tu lui donnes un ballon sale, il te le nettoie, il te relance.
Et puis surtout, sur les coups de pied arrêtés, il faisait du bien à Marseille.
Mais est-ce qu'il pouvait pas faire plus, justement? Daniel en parle souvent. Riolo, il est pas convaincu par Adrien Rabiot. Il dit, bon joueur, pas très grand joueur, parce que peut-être un peu trop horizontal, quoi, tu vois. Peut-être qu'il y a un manque d'audace, de risque également dans ses initiatives.
Après, c'est son style de jeu. Je trouve qu'il faut savoir l'associer pour peut-être l'optimiser. Quand on sait que c'est un joueur qui est plutôt simple, avec, bon, il prend quand même la profondeur, hein, il y va, c'est propre, il perd peu de ballons. Dans la possession, c'est un joueur super important.
Non, c'est le joueur 6 sur 10, quoi.
C'est pas très grand joueur.
Que ce soit à la Juve, que ce soit au Paris Saint-Germain, que ce soit en équipe de France, il y a toujours une fiabilité. Un joueur qui t'assure un 6, quoi.
Oui, il faut savoir l'associer.
Après, je vais pas au stade pour Adrien Rabiot, personnellement.
Moi, je trouve que c'est même un 7,5 sur 10 parce que c'est un mec qui, aujourd'hui.
Ça n'a pas été le cas tout le temps.
C'est un joueur moderne. C'est le joueur que tous les entraîneurs aiment avoir dans leur effectif. C'est le gars qui sait attaquer, qui sait défendre, qui est bon sur coup de pied arrêté. Tactiquement, il est bon. Techniquement, il est bon. Il a de l'allure. Il est un peu en mode tracteur comme ça, parce que quand il démarre, c'est pas le joueur très fin techniquement, parce qu'il a un gros gabarit. Mais quand il démarre, c'est quand même quelque chose. Il faut le suivre. Il a de la puissance. Il a de la technique. Oh, c'est un c'est un joueur de très très haut niveau.
Kevin.
Non, pour moi, 6 sur 10, c'est un peu péjoratif. Pour moi, 6 sur 10, c'est juste au-dessus de la moyenne. Non, moi, je trouve que c'est même
Kevin,
un 7, c'était
juste. Je parle de tout au long de sa carrière. Tout au long de sa carrière. C'est-à-dire que pour moi.
Il a toujours joué dans les clubs où il est passé.
Jouer, il n'y a pas de souci.
Jouer, c'est le plus dur.
Non, mais. Ce qui s'est passé l'année dernière à l'Olympique de Marseille, moi je l'ai valorisé, c'était le meilleur joueur de l'Olympique de Marseille l'an dernier. Mais il redescendait d'un étage par rapport à ce qu'il avait connu.
C'était un des meilleurs.
Laisse-moi terminer.
Finir.
Quand je dis que quand tu arrives à l'Olympique de Marseille, c'est un leader, il a pas fait du 6 sur 10 à l'Olympique de Marseille. Il a été sur du 7, 8 sur 10 pendant toute l'année. Mais jusque dans toute sa carrière notamment, que ce soit même à la Juve, quand la Juve c'était compliqué pour lui, même quand la Juve c'était compliqué pour eux, c'était un joueur entre 5 et 6 sur 10 où il passe jamais à côté, mais c'est jamais un joueur spectaculaire. Ça n'a jamais été le joueur de ces parce que très très haut niveau.
Mais tu cites qui dans cette Juve?
Mais non, mais la Juve était en grande
mais
difficulté.
Heureusement qu'il était là, surtout.
Non, mais d'accord.
Mais,
okay.
Si.
Mais c'était
heureusement qu'il était là.
Il a raison, Kevin.
Heureusement qu'il était là.
Allegri, c'est le joueur de gros Allegri. Allegri l'adorait, c'est le premier nom qui couche.
Mais c'est pas un joueur spécial, c'est pas un joueur de très très haut niveau.
C'est un joueur.
Tu vois, par exemple, pour moi, Rabiot, Coupe du Monde 2022, porte-flingue d'Mbappé, il est très très bon. Il est important,
très important. Mais c'est pas parce que t'es un porte-flingue que tu peux pas avoir 8 sur 10.
Bien évidemment, mais c'est un joueur dans son rôle, dans son profil, dans un rôle parfois de l'ombre, etc. Il va être très très bon. Maintenant, pour moi, tu ne peux pas lui confier les clés du jeu d'une très grosse équipe en Europe. Mais excusez-moi.
Mais de toute façon, mais t'es en train de me dire que tu vas confier les clés du jeu à un 6-8. Ouais. Mais quel est le 6-8 à Paris Iniesta?
Rodri a eu les clés du jeu. Un Reinders avait les clés du jeu du Milan.
Reinders, c'est mieux que Rabiot.
Un Toni Kroos
Cross. Reinders et Mitra Bio.
Ouais, je pense.
Gustavo à l'OM.
Ah oui, moi je pense que Reinders. Non, je préfère Reinders.
Vous perdez pas sur Reinders, les gars.
Non, mais d'accord, mais. Non, mais juste. Cross était un 6-8, il avait les clés du jeu du Real. Voilà,
mais
c'est.
Non, mais Cross, c'est un ancien numéro 10 reconverti en 6.
Mais d'accord, mais aujourd'hui, c'est les milieux modernes. C'est les milieux modernes. Aujourd'hui, ils ont joué 6, 8, 10, c'est les milieux modernes.
C'est vrai qu'il a 30 ans, on connaît pas son meilleur poste, Adrien Rabiot, encore.
C'est un milieu de terrain. Milieu de terrain polyvalent, que je joue au 3.
Mais ça n'enlève pas que c'était un joueur ultra important à l'Olympique de Marseille et qui a fait une très grosse saison l'an dernier.
C'est plongé avant de nous manquer à Marseille.
En tout cas, il voulait un club Ligue des Champions qui jouait avec des champions cette saison. Finalement, c'est le Milan qui jouera même pas de Coupe d'Europe. Voilà, il sera dans l'entrejeu d'Allegri, qu'il a adoré à la Juve.
C'est important pour un joueur de retrouver un coach qui l'a aimé. C'est un joueur, on n'en parle pas souvent, mais un joueur a besoin de se sentir aimé pour être bon.
Ouais, tu as toujours été aimé. Disiez, est-ce que c'est. Moi, je trouve ça un peu décevant, en fait, de le voir finir à Milan. J'aurais attendu plus haut, tu vois, sans sortir de Marseille. Alors, évidemment, il y a le contexte qui joue beaucoup.
Le contexte.
Ça se finit en fin de mercato, comme ça, etc. Mais je sais pas, j'aurais bien aimé le voir en première ligue, par exemple.
Et avec tout le respect, être très, très aimé par Massimiliano Allegri, c'est pas non plus. La meilleure carte postale du football.
On est d'accord.
Dire que, excusez-moi, avec tout le respect, hein, parce que c'est un immense coach.
Rajoute pas le respect, c'est pas grave.
Avec tout le respect, je
oui, mais on sait que tu le respectes.
Voilà,
si tu craches pas dessus.
Carte de visite plus que carte postale.
Après, Nico, si tu veux, en fait, tu peux prendre mes.
Non, mais tu fais chaque avis tranché, pas avec tout le respect. L'humain, il est comme ça. En revanche, le coach, non.
Voilà, mais j'ai un problème avec le coach et ses ambitions. Voilà, ses ambitions dans le coach.
Très bien.
Avec tout le respect.
Et ma parole, Robinho, il aurait été avec toi.
Ah ouais?
Ah, une embrouille dans le vestiaire. Robinho, Allegri, c'était une dinguerie.
Ah, il n'aimait pas?
Oh là là, une embrouille, ils se sont pris la tête et tout ça. Et après, Allegri lui a dit, hé, arrête de faire le malin, partout où t'as été, t'as foutu le bordel. Il lui a dit, vas-y, refais-moi ta carrière à toi. Et dans le vestiaire, devant tout le monde, donne-moi ta carrière. C'est quoi ta carrière? Je te jure. Et c'était très tendu entre les deux.
Ah ouais.
C'était incroyable.
Il est pas en zonzon, Robinho, là?
Non, si,
il a
les
sales histoires. Il a les histoires.
C'est très, très sale histoire.
Mais quel joueur, Robinho? Maman, parce qu'on parle du Milan. Et il était incroyable.
Je rappelle que tu as joué au Milan aussi.
Et il avait un peu de gras, un petit peu, c'est vrai. Ouais. Mais je vous jure, quand un contre un,
bah oui,
il faisait danser tout le monde. Hein, et on était à notre apogée, on était costaud quand même. Ah, c'était chaud quand je me suis dit à l'époque comment il devait être.
Ah, tu parles pas du Milan avec Bakay Traoré, etc.
Moi, je parle du Milan. Bah, quand j'arrivais à Milan, il y avait
des bons
joueurs. Il y avait Kaka.
Ouais, Kaka, Ricardo Kaka.
Il y avait Honda, il y avait Balotelli, il y avait Robinho.
C'est l'année où Tarap, il arrive en janvier, il fait n'importe quoi, là.
Il fait pas n'importe quoi.
Non, quand j'ai n'importe quoi sur le terrain, c'est n'importe quoi.
Oh, le stade, à un moment donné, il arrivait sur la pointe des pieds.
Le match contre l'Atlético en 8e de finale de Ligue des Champions.
Écoute, dès qu'il était sur le terrain, tout le monde se levait, il venait le voir jouer, il mettait des petits ponts, il s'amusait avec les adversaires, c'était une dinguerie.
On parle de Tarapt.
Ah, quelque chose. Je veux pas vous niquer votre émission.
Mais non, mais attends, tu rigoles, nous on se régale. Attends, on n'est pas dans ces vestiaires-là.
Par contre, pour revenir à Rabiot,
le prime.
Non, Rabiot, c'est fini.
C'est quand même.
C'est Cupillard.
Extraordinaire.
Il faut aimer le football pour voir ce qu'il a fait, c'est une dinguerie. C'est choquant.
T'es en train dans les délires de Balotelli ou pas, toi, ou jamais?
Non, il était trop fou. Je veux dire, tu veux que je dise un truc?
Vas-y.
Je te jure que Mario, il est barjo. Quand j'étais à Marseille, j'avais besoin d'être concentré, d'être. C'est Marseille, tu vois. Même moi, j'ai besoin de prouver tout. Quand il arrivait à Marseille et que je voyais Mario sur mon téléphone, j'étais pas tranquille. J'avais la boule au ventre. Quand t'as Mario qui t'appelle à minuit, c'est pas normal.
C'est pour un feu d'artifice dans une baignoire, peut-être, par exemple. Voilà pour Adrien Rabiot. Alors, Paul Pogba aussi.
C'est quand même une triste fin pour Rabiot.
Ancien coéquipier. Attends, ça va.
C'est pas la fin, il a encore.
Il a 30 ans.
Une triste fin par rapport à ce qu'il a.
À Marseille, tu veux dire, ouais.
Démarré à Marseille,
là. Oui, ça c'est sûr.
Pogba.
Ce sera pas une triste fin pour l'OM.
Écoutez, Adi Hütter. Adi Hütter, son coach à Monaco, qui a parlé de Paul Pogba. Tu nous en parleras aussi, Adil, dans un instant.
Oui, je pense qu'il y a clairement un risque sur la façon dont fonctionnera le plan de remise à niveau de Paul Pogba, combien de temps ça prendra pour qu'il ait un réel impact sur le terrain. Mais on a aussi l'opportunité de lancer des jeunes. Aladji Bamba a déjà joué et sort d'une très bonne préparation. Mamadou Koulibaly également. Si on signe trop de joueurs confirmés, on bloque l'espace pour ces jeunes. Ça fait partie de notre stratégie. On doit être courageux et continuer notre projet dans cette direction.
Bon, Adi Hütter dira aussi qu'il ne pourra revenir qu'après la trêve internationale, la prochaine. Donc c'est en octobre, ce qui ne veut pas dire qu'il sera là forcément en octobre sur le terrain. On imagine, on espère pour lui qu'il sera là avant la fin de l'année civile.
Vas-y. J'ai pas encore l'expérience, tu vois. C'est quoi l'origine de sa blessure? Pourquoi ça prend autant de temps? Parce que moi, c'est un ami, c'est vrai. Mais jamais je parle de tout ça avec lui. Ouais. Même pour les clubs, à l'époque, on me demandait, ouais, demande-lui où est-ce qu'il va. On n'en parle jamais tout simplement parce que si ça sort, il peut me prendre pour une taupe. Donc jamais, à tous mes amis, je demande jamais ce genre de choses. Mais c'est vrai qu'on aimerait savoir la.
Au début, on parlait de réathlétisation, c'est ça, Kevin?
Une très longue période sans jouer, a dit. Ouais, ça fait très longtemps.
Ouais, on peut déjà l'intégrer, tu sais, sur une demi-heure. Il peut le faire facile si la blessure.
En fait, ce que je comprends pas, moi, je connais pas du tout. Donc, je connais pas du tout la situation physiologique de Paul Pogba. Mais il y a des mecs qui reviennent des croisés. Et croiser, c'est une blessure autrement plus grave que être arrêté pendant 2 ans. Certes, tu n'as pas pu t'entraîner avec un groupe, etc.
Après, ça, il avait eu des blessures aussi, Kev. C'est pas que
son corps, il est remis de ses petites blessures. Je l'espère pour lui. Après, je sais pas s'il a d'autres blessures entre temps. Ça, on n'est pas au courant. Mais il te faut pas quand même 6 mois pour refaire 30 minutes en Ligue 1.
Non, mais c'est vrai que la situation, elle est un peu opaque autour de son état physique. On ne sait pas. Monaco, il ne communique pas plus précisément. On n'a pas. Tu vois,
on ne peut pas affirmer qu'il va rejouer forcément cette saison.
Ça me paraît quand même très.
Dernière fois qu'il a joué, c'était en 2023.
La dernière saison à plus de 20 matchs, c'est 2021-2022.
Non, mais on ne parle pas de 20 matchs. On parle juste de 1 match.
Non, mais les gars, je ne sais pas si on se rend compte de la route. De Pogba pour revenir à son meilleur niveau, on l'a déjà expliqué cet été. C'est-à-dire que retravailler physiquement avec que ce soit individuellement et même en groupe tous les jours sur les oppositions, ne pas avoir l'appréhension du retour sur un match et de repartir pendant 2-3 mois avec un pépin physique. Moi, j'ai l'impression que quand il arrive à Monaco, on a minimisé cet aspect-là, mais même et puis même l'aspect mental, c'est-à-dire que avec tout ce qu'il a traversé, Pogba, moi, j'ai toujours dit, moi, je suis un grand, enfin, je suis pas le seul, mais on est tous très fans.
Avec tout le respect.
Non, mais on est tous très fans de Paul Pogba et il nous a fait rêver en 2018. Ça a été un joueur fantastique, peut-être l'un des plus talentueux à son poste qu'on ait connu dans ce pays. Mais moi, j'ai toujours dit que j'avais du mal à y croire, que son retour serait une remontada exceptionnelle.
Là, tu parles d'un retour éventuellement à son meilleur niveau.
Mais c'est pas dans ça qui nous intéresse. Mais même sans rapprocher, faire une saison à 15 matchs à Monaco, j'ai du mal à y croire. Adi. Et je veux même pas te dire que j'y crois pas une seconde, parce que je pourrais y aller là-dessus.
J'ai envie d'y croire, parce que d'ailleurs, on le voit pleurer. C'est vrai que
ça prouve le chemin. Ça, c'est incroyable.
D'ailleurs, quand on en parle, j'ai encore la chair de poule, parce que c'est un ami, et de le voir comme ça, ça m'avait marqué. Je n'ose même pas imaginer ce qu'il a vécu. Mais moi, j'ose y croire parce que je sais qu'il a beaucoup, beaucoup travaillé.
T'as déjà vu un mec qui a raté 4 ans comme ça et qui est revenu à son niveau ?
Ouais, mais c'est pour ça que le football est beau. On a des belles histoires à vivre et je pense que Pogba peut nous donner une très belle leçon. Moi, la seule question que je me pose, c'est l'origine de sa blessure. Parce que même si tu arrêtes pendant 4 ans, je le sais qu'il s'est préparé. Il se prépare énormément. Il attend ça avec impatience. Plus que tout le monde, que toute la planète football. Mais à un moment donné, c'est vrai que il va reprendre 15 minutes. Il aurait déjà dû reprendre 15 minutes, 30 minutes, une mi-temps à 32 ans. 32 ans, c'est pas non plus, c'est pas 35, c'est pas 36. Il y a encore du potentiel. Surtout avec son profil. Je pense qu'il va beaucoup apporter à l'AS Monaco. Mais j'ai vraiment envie d'y croire. Je pense pas que Monaco, c'est un club quand même qui est assez compliqué. On rentre pas dans ce club aussi facilement.
Après, c'est un environnement quand même propice, plus calme, tu vois.
Au niveau du staff médical aussi. Ils prennent pas un joueur en se disant, bon, ben,
oui, c'est aussi un salaire.
Je suis pas d'accord avec vous. Pour moi, ça pue le coup. Médiatique.
Monaco, ils n'ont pas besoin de trucs médiatiques. Une équipe qui tourne très très bien, il y a des stars. Enfin, des stars, on est d'accord, on s'entend quand je dis stars. En France, tu as des joueurs qui tournent très bien, Golovin,
Agliouche,
Minamino.
Mais pour l'instant, Adil, avec tout le respect de Paul Pogba, il te concurrence plus.
Ton respect, on sait que tu respectes tout le monde.
Non, mais il te concurrence beaucoup plus sur Twitch que sur le terrain, c'est coéquipé pour l'instant. C'est-à-dire que pour l'instant, je l'ai vu avec Aisho Speed.
T'es dur avec
Paul Pogba. Non, mais je suis pas dur. Je dis juste que pour l'instant.
C'est le personnage qui est comme ça.
Et bien évidemment. Il a toujours été comme ça. Et c'est une star. C'est ça que je te parle de coup médiatique. Oui. Ce serait très très bien pour Monaco. Mais je dis juste que même. Tu parlais d'émotion tout à l'heure. On a tous été émus par ces images. Mais lui, quand il va refouler une pelouse. Comment il va gérer ça émotionnellement avec tout ce que ça représente, avec tout ce que ça peut représenter.
Ils ont vécu familial.
Il a une force. Paul Pogba, il a une force mentale extraordinaire. C'est pour ça que moi, si je me dis que c'est pas un ami, parce que je le connais, je me dis ouais, c'est vrai que j'aurais réagi comme toi, j'aurais pensé comme toi. 4 ans, c'est dur de revenir et à 32 ans. Mais toute l'énergie qu'il a mis dans cette préparation, la personnalité qu'il peut avoir et tout ça, je pense que Paul Pogba est prêt pour.
Moi, je serais le premier à valoriser son
retour,
son retour à la hauteur du challenge. Ouais, vraiment.
Le plus dur pour. T'en as un peu parlé, Walid, mais le plus dur pour lui, c'est pas de revenir, c'est de jouer libéré. C'est de jouer libéré, sans se dire vas-y, je vais faire un sprint de 40 mètres, mais je vais pas me blesser.
Et enchaîner.
Ouais.
Enchaîner. Ouais. Moi, quand je vois Ismaël Benacer qui est revenu à l'Olympique de Marseille, qui a fait un premier match contre Angers, 60 premières minutes, on s'est dit, mais s'il joue à ce niveau-là, il est titulaire indiscutable dans cette équipe. Sauf que Benacer, depuis sa grosse blessure en demi-finale de Ligue des Champions contre l'Inter, il arrive pas à enchaîner 3 matchs. Aujourd'hui, il est au Dynamo Zagreb. C'est-à-dire que un mec qui pendant un an il a eu un trou, c'est pas 4 ans.
Oui, mais
c'est un an.
C'est pas qualité sur degré de motivation pour revenir, sa rigueur.
Les gars, à un moment donné tu peux pas aller contre ton corps. Ton corps à un moment donné t'envoie des signaux. Tu fais comment? T'es mort.
Après là il est à Monaco et Monaco quand même domine la 80% de leur match dans la possession, dans le pressing. Après
ça peut l'aider pour ça.
Il faudra quand même faire 10 km
aussi. Sans le ballon,
milieu terrain, oui.
Sans le ballon, il joue à deux avec Zakaria.
Tiens, Adil, Thauvin, Giroud, Pavard, Pogba, on a 4 champions du monde. En Ligue 1, on a perdu Rabiot malheureusement. Ouais. Mananda, on en parlera peut-être plus tard.
Pas champion du monde, Rabiot
n'est pas champion du monde, bien sûr. Il était réserviste.
Avec tout le respect, Nico, avec tout le respect.
Tout à fait. Ouais. Merci de me respecter. C'est bien que tu le dises, parce que j'en doute parfois. Lequel va réussir le plus réussir son retour au pays, tu penses?
Des bonnes questions, vous avez des bonnes questions. Vas-y. Oh là là.
Giroud,
il y a Thauvin, il y a Paul Pogba et Pavard. Ok, je suis tenté de vous dire. Entre Pavard et entre Pavard et Flotov.
Non, il y a pas de entre ici. Hein. C'est l'ancien Marseillais ou le Marseillais.
Donc t'es en train de dire que Giroud va pas réussir.
Non, j'ai dit qu'ils vont tous les quatre peut-être réussir, mais celui que tu m'as, la question c'est le plus réussir.
Oui, c'est ça.
Ouais, d'accord.
Oui, il écoute.
Je suis attentif. J'ai envie de dire Pavard parce que c'est là où il y a le plus grand manque. C'est-à-dire que Lille tourne déjà très bien. Tournez bien, il n'y a pas de polémique. Monaco tourne très bien. Lens, c'est une équipe qui tourne bien, l'ambiance.
Il n'y a pas une ambiance.
Et puis Ali, il y a Igaman.
Ali, il y a Igaman, Superman. Hey, c'est le Ronaldo marocain.
T'aimes bien aussi Igaman, toi?
Je le kiffe. Coup de cœur. J'ai sur ma chaîne Twitch, j'en ai parlé, ça fait maintenant presque 10 mois. Et je suis tellement content et fier, peuple marocain. Donc, je dirais Pavard, parce que c'est là où il y a le plus grand manque. Et c'est lui qui va.
Le plus
réussi à Marseille, ben, comme c'est un club très médiatisé, très populaire, et on en fait aussi. Beaucoup quand ça va pas et aussi beaucoup quand ça va bien. Donc je
merci
pense que c'est lui
dire.
Qui risque de bien le réussir.
Voilà. Je viens de recevoir un message d'Olivier Giroud. Tu diras à Adil que
c'est fini. Tu dis c'est
terminé. Par contre, Giroud, ça, les 15 buts, je les attends. Je pense qu'il est capable de mettre ses 15 buts.
Il est déjà à 2 buts là, c'est ça?
Pour l'instant, ouais, il a 2 buts. Il a même raté un pénalty. Il en a peut-être 3. Ouais.
Adil, tu restes avec nous encore. Il nous reste une grosse demi-heure ensemble dans Génération After avec Jimmy, Walid et Kevin. On vient dans quelques secondes, bien sûr. À tout de suite.
RMC jusqu'à 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec notre invité ce soir, on se régale avec Adil Rami sur RMC Génération After, Kevin Diaz, Jimmy Brown et Walid Acherchou. N'hésitez pas à faire le 32-16 hein, si vous avez des questions à poser. Adil Rami, sa carrière, sur Rudiger. Alors d'abord, Rudiger, on vient d'en parler pendant la pause. Du moment où on enregistre le podcast, c'était pas dans Génération After.
Là, il faut l'écouter.
Adil, je tease, avait dit que à ton prime, t'étais meilleur que Rudiger Prime également. Il a développé. Écoutez, téléchargez le podcast.
C'est un des meilleurs, c'était pas dans l'after.
C'était pas dans Génération.
C'est un ratable.
C'est tellement fort qu'on a envoyé la pastille au service comme
il est. Ce qui est dingue surtout,
c'est que Rudiger a appelé pendant c'était pas dans
Génération. Exactement, au 32-16. Et on l'a accueilli. Non, mais sincèrement, autant, on va se le dire, avec tout le respect, laissez pas dans
Génération.
Non, tu vas dire une merde. Tu vas dire un truc
comme ça. Non, mais laissez pas dans Génération.
Tu vas dire c'est mid.
Non, parfois c'est très midas. C'est très mid. Là, c'était très très bien. C'était très bien.
Dire, c'est toujours bien, mais là, c'était exceptionnel.
Non, parce qu'on est là dans un devoir de sincérité et de réalité.
Exactement. Et là, c'est pas là. Mais pourtant, c'est compliqué pour moi, parce que la nouvelle génération m'ont vu en fin de carrière.
Ouais.
Donc, ils sont là à débattre en pensant que Rydia, comme il est en pleine carrière au Real Madrid, moi, je suis fan du Real Madrid, il faut savoir.
Ouais. Ah bon?
Ah ouais, je kiffe le Real Madrid. Moi, quand je jouais contre le Real Madrid, fallait rentrer dans le match, mais. Mais quel club?
C'est quoi, tu jouais pour eux?
Non, je jouais pas pour eux, mais c'est un kiff. Tu vois, autant le Barça, sur ma. Je fais une pub pour moi, hein, venez voir sur ma chaîne Twitch.
Oui.
Bon, j'analyse tous les matchs, surtout du Barça, du Real et tous les grands clubs. Je kiffe parce que j'aime le football. Je me lève, je crie quand je vois un but du Paris Saint-Germain, quand je vois un but du Barça. Tu vois,
c'est le football avant
tout. On aime le foot, on est d'accord.
C'est le football avant tout.
Ouais. Mais moi, le club qui me fait le plus kiffer. C'est le Real Madrid.
Depuis quand?
Ça aurait été ton rêve de jouer au Real?
Malade. Et surtout, aux côtés de Ramos, c'est mon idole. Je kiffe Ramos. Pour moi, c'est l'un des meilleurs défenseurs de tous les temps. Alors, tu mets des grands joueurs avec lui, tu mets Maldini. Moi, je parle des joueurs que j'ai vus. C'est impressionnant.
C'est rare qu'un gars dise qu'un gars qui est contemporain avec lui, qui est de la même. Peut-être pas de la même année, mais pas loin, je pense.
Mais tu vois, par exemple, Ramos, qui est extraordinaire. Bah, à l'époque où j'étais à Valence, on se rentrait dedans. Je physiquement, je le mangeais. Alors, vous me dire, c'est un fou. On se rentrait dedans. On se regardait dans les yeux.
T'étais une armoire,
C'était, fallait. Mais Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Alors, attention, on parle des meilleurs joueurs du monde. C'est, vas-y, viens, je te rentre dedans. S'il faut que. Et ils savaient, les mecs en face.
Toi, t'avais
la nouvelle génération qui oublie. Bah, ils oublient. On peut pas leur en vouloir. Ils ont pas vu. Ils n'ont pas vu ces matchs-là.
Bon, qui est le joueur qui t'a fait le plus mal? C'est une question qu'on a posée à Gaël hier.
Alors pour les gens, encore une fois, pour la nouvelle génération, avec le grand respect que j'ai pour cette génération. J'ai une histoire quand même qui fait partie des plus belles histoires du monde du football.
Il faut la raconter.
Et j'en suis fier. Donc c'est pour ça que je suis pas là pour. Je confirme mon histoire. Mais. Je suis arrivé à 19 ans, 20 ans dans le monde professionnel, j'étais mécanicien. Et donc du coup, il a fallu que j'apprenne sur le tard, sur les terrains de Ligue 1. On m'a pas appris, moi, le métier de défenseur central. Et c'est vrai que celui qui m'a remis à ma place, parce que je suis arrivé à Lille, je jouais la nouvelle star de la Ligue 1, qui a une belle histoire et tout. Et là, j'arrivais, ça se passait très bien. Jusqu'au jour où je croise, dans un premier temps, le chemin de Lisandro Lopez. Il m'a tué. Parce que moi, j'étais à fond dans les duels. J'aimais bien le contact, le duel, j'aimais bien sentir de la viande. Lui, j'arrivais pas.
Les déplacements,
une touche de balle, une, deux, les déviations. Je me dis, mais j'arrive pas à lui rentrer dedans, j'avais envie de lui faire mal. Et non, parce qu'à l'époque, on devait faire mal aux attaquants pour la respecter. C'était comme ça avant.
C'est toujours le cas, t'inquiète.
Mais là, il y a la VAR. Donc maintenant, le football, il change aussi à cause de la VAR. Tu peux plus rien faire, tu peux plus avoir du vice un peu, malveillant. Mais, il y a lui. Et après, il y a eu Torres à son prime.
Fernando Torres.
En Europa League, il nous a tués. Il m'a tué, je préfère prendre ma responsabilité.
Ligne.
Il m'avait fait très très mal ce match-là. Et puis après, celui que tous les plus grands défenseurs, alors je ne mets pas dedans, je me sers des grands défenseurs qui ont croisé le chemin de Léo Messi.
Ça veut dire quoi? Parce que
c'est terrifiant,
c'est terrifiant. Ça va trop vite, le ballon.
Je sais pas. En fait, alors moi, par exemple, quand on me demande de choisir, c'est la question qu'on m'a le plus posée. Messi ou Ronaldo? Je le dis, je le répète, footballistiquement parlant, tu peux pas rivaliser avec Messi, tu peux t'appeler Ronaldo, tu peux pas, footballistiquement parlant. Samir Nasri, il avait bien résumé, il a été super intelligent dans sa réponse. Il a dit, si tu veux un buteur, tu prends Ronaldo. Si tu veux un buteur et un passeur, tu prends Léo Messi. Faut le vivre pour y croire, sincèrement. Après, le personnage, moi, je suis fan de Ronaldo. Je kiffe son football aussi, parce que souvent, on a tendance à croire aujourd'hui, quand on a un dilemme, si on choisit Messi, ça veut dire automatiquement qu'on n'aime pas Cristiano Ronaldo. On est contre. Que pas du tout. Moi, j'aime les deux. Je suis fan des deux. J'ai toujours été fan des deux. D'ailleurs, j'ai leur maillot. Je le dis, je le répète. Oh. Comme Iniesta. Je suis fou d'Iniesta. Quand je le voyais jouer, je me dis, comment il fait pour être.
Je peux te poser une question. Tu parlais de Messi et de Ronaldo et Neymar.
Neymar, par exemple, excellent joueur aussi. Il fait partie des plus grands contre qui j'ai joué. Mais. T'avais cette option de pouvoir lui faire mal, tu savais qu'il allait tomber.
Okay.
Par exemple. Messi, à un moment donné, je disais aux gens qui me disaient, Messi, j'arrive même pas à l'attraper. J'arrive même pas à lui faire mal.
Ouais. Mais c'est quoi? C'est les appuis courts,
les appuis courts, la vitesse, rapide.
D'exécution.
Il touche le ballon, sur 5 mètres. Conduite de balle, il touche le ballon peut-être 15 fois. Donc à tout moment, tu sais pas, tu peux même pas lire. C'est quand on parle de la lecture du jeu. Les défenseurs en anticipant.
Le monde analyse.
Impossible. Et puis après, à cause de lui ou grâce à lui, il y a des joueurs sous-cotés autour de lui qui nous ont fait mal avec leur déplacement qui allait super bien. Pedro, c'était
très sous-coté
avec lui.
Très sous-coté.
C'était incroyable. Donc moi, Léo Messi, j'oublierai jamais. Et moi, je me rappelle la première fois où je signe à Valence, je vais pour jouer, mon premier match contre le Barça avec la mentalité française. En tout cas, on est un peu moins compétiteurs. C'est ce que j'ai ressenti. On a moins la culture de la gagne. Les Espagnols, pour eux, c'est bon, c'est Mestalla. Ouais, ils vont pas gagner. Alors que moi, je dis, j'espère qu'on n'en prendra pas 5.
Ouais.
Voilà, j'ai eu peur, en vrai.
Et vous en aviez pris combien à l'époque?
2-2. Deux-deux, premier match. Allez, Abidal, Dani Alves, une belle équipe, au milieu de terrain.
Belle équipe, sympa. C'est la plus grande de l'histoire.
Mais ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que, tu vois, tu parlais du fait que la VAR maintenant est dans le foot. Alors, il y en a qui comprennent pas pourquoi on est contre la VAR, etc. Mais, t'as parlé d'un truc, t'as beaucoup dit, tu voulais lui faire mal. Et moi, souvent, quand je parle avec des jeunes, tu vois, ils disent, mais un défenseur et tout, faut que ça soit propre. Et non, un défenseur, en fait, il faut qu'il fasse mal. Ouais.
Tu peux être propre, mais en faisant mal.
Mais bien sûr, mais il faut faire mal. Il faut faire mal quand t'es souvent, sans vouloir bien sûr comparer quoi que ce soit, mais souvent on me dit, qu'est-ce qui te manque dans le foot? Mais moi, en fait, c'est pas. Mettre un petit pont, humilier un mec, ça c'est sympa et tout. Mais en fait, ce qui me manque, c'est l'agressivité que tu peux transformer. Tu vois, sans vouloir blesser quelqu'un, mais ne serait-ce que faire mal par un crochet, faire mal par un petit
bout, faire mal
par un tampon, tu vois, et c'est cette agressivité là qu'on a tous en tant qu'humain, en tant que voilà. Et ce que tu dis, moi, c'est ce que j'adore dans vos défenseurs, dans ces défenseurs là Ramos, Ramos.
Tu te décrivais comme un défenseur méchant, parce que moi, dans l'idée, je te voyais comme alors peut-être que je me trompe, parce que j'avais des yeux d'adolescent à l'époque, comme un défenseur très athlétique. ouais. dans le duel, mais qui avec le ballon parfois avait beaucoup de défauts.
Ouais.
Est-ce que tu étais ce joueur-là?
J'ai commencé comme ça. Ouais. À Lille, vraiment, j'ai tout misé. En fait, pour les jeunes qui nous écoutent, j'ai tout misé sur ce que je savais faire de mieux. Comme j'étais, faut pas oublier, mécanicien. J'avais l'impact athlétique, mon duel de la tête. J'avais une détente, c'était incroyable, et mes transversales. Bon, pas toujours réussi, mais c'était mon point fort. Et quand j'ai arrivé dans le monde pro, j'ai dit, joue avec tes qualités, ça sert à rien de faire le technicien. Et j'ai eu du mal, parce qu'on m'a pas appris le métier encore une fois. C'est à Valence, où j'ai réussi à perfectionner mes relances, et après j'ai su progresser, et à la fin c'est devenu un point fort avec
Et c'est à l'entraînement que t'as progressé?
Ouais, c'est à l'entraînement avec les coachs. Les coachs, normalement,
il y a beaucoup de jeunes qui ont du mal à comprendre que c'est souvent tu parles avec des jeunes, ah mais moi je veux jouer les matchs. Ouais. Et moi je leur demande, mais il y a combien d'entraînements et de matchs dans une semaine? Il y a un match. Il y a combien d'entraînements? Il y a 5 entraînements.
Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est jusqu'à quel âge, en fait? Parce que tu vois, là, tu parles de.
Il n'y a pas que
jusqu'à 30 ans, tu peux continuer à apprendre.
24-25 ans, vraiment.
Parfois, on dit, ouais, ce mec-là, il a 23, 24, non. 25 ans.
Tu vois, vous savez que Mazid Bouli, il pouvait bosser, il n'aurait jamais réussi une relance très propre ou trois relances dans le match.
Jusqu'à 27 ans, 28 ans, tu progresses. Alors, en fait, ton cerveau, il progresse, ton corps, il progresse, en fait, tu prends de la maturité et après, même, tu changes ton jeu. Même Ronaldo, moi, je suis fan de lui, je le voyais au Sporting, il n'avait pas le même jeu au Real, il a dû s'adapter par rapport à son corps, il a dû une adaptation. Après, ce que tu disais sur le football. Normalement, dans la logique, bon, il y a la VAR aujourd'hui, mais dans la logique, chacun doit jouer avec ses qualités. C'est-à-dire, un technicien va dribbler. Donc, mais si un défenseur, tu lui enlèves ses qualités d'athlétique, tu lui enlèves quelque chose. Donc, c'est compliqué, ça.
Adil, quel est aujourd'hui le défenseur central qui te fait rêver? Enfin, rêver.
Qui
en
me fait
cas,
rêver, non, il y en a pas.
Que tu adores dans ce qu'il produit sur le terrain, dans l'engagement corporel, le côté leader aussi.
Il n'y a personne qui me fait rêver dans le football actuel, je vais être honnête.
Ah bon?
Sur RMC, non.
Non, mais le meilleur, quoi.
Non, bien sûr.
Non, mais déjà, sur l'aspect, personne
ne me fait rêver. Je vais te dire par rapport à ce que ta question, c'est parce que je pense, à l'époque, je voyais Puyol, je prenais exemple sur lui. Sur son fair play, je voyais Ramos, même Piqué.
T'as Rüdiger aujourd'hui, tu veux prendre un...
Non. c'est pas du tout.
Van Dijk.
Surtout sur le fair play.
Il y a Van Dijk que j'aime beaucoup, mais par exemple, quand les gens, ils arrivent à comparer, ils me posent sur ma chaîne Twitch, ils me posent la question Ramos ou Van Dijk. Je dis, mais les gars, vous avez craqué. Il y a un monde d'écart entre les deux. Parce qu'il y a aussi la longévité du joueur, tout ce qu'il a, Ramos a pu apporter, même sur les. Ramos, il a toujours très souvent été présent dans les grandes finales. Tu sais que c'est important pour toi d'être dans les grands matchs. C'est incroyable, c'est incomparable. Mais aujourd'hui, si tu me demandes de faire une défense à 3, par exemple,
ouais,
alors, pas prendre beaucoup de risques, tu n'as pas
besoin
de
faire des questions, les réponses, j'adore.
Mais tu me fais une défense très solide avec 3 Français. Tu me sors Saliba, Upamecano et Konaté, je te jure que c'est une dinguerie.
Ah ouais? Moi, je prends pas un espagnol, par exemple. Eusen ou Koubarsi, la nouvelle génération.
Je vais rester sur.
Propre,
moi je veux rester sur du solide,
c'est pas
tu vois.
Pour toi, un défenseur central. Après, parce que aujourd'hui, on parlait de Balerdi tout à l'heure. Ouais. C'était un débat intéressant. Qu'est-ce que demandent les nouveaux coachs? Qu'est-ce que demande le nouveau football? Est-ce qu'un Adil Rami, aujourd'hui, pourrait exister?
Saliba, c'est un bon défenseur.
Par exemple, on a Pacho, l'année dernière, qui a fait une super saison.
J'ai kiffé sa saison.
Et il a fait une saison. Pour faire mal, c'est-à-dire qu'il était un défenseur qui défendait.
Et il est bon, je vais préciser juste un truc, il est bon aussi, on l'oublie souvent, grâce à Marquinhos qui a un peu moins bien parce qu'il prend de l'âge aussi, on va pas se mentir.
Parce que moi j'ai le sentiment que c'était Pacho qui rendait meilleur Marquinhos.
Je suis sûr et certain que je te jure que Marquinhos, avec sa communication, son expérience et tout, il canalise des jeunes, ce mec. C'est là où je disais qu'il manque un leader à.
Mais moi je peux plus avoir un défenseur qui fait que défendre. Moi j'ai besoin, avec les nouveaux coachs notamment, de faire évoluer le jeu.
Dans les relances, tu veux dire.
Moi le prochain, le mec, le crack que je suis en train de manger. Non, que tout le monde est en train de manger, c'est Hussein au Real Madrid, qui est ambidextre et qui est capable de faire avancer le jeu.
Il va faire du bien au Real.
Mais il y aura beaucoup de critiques sur son rôle défensif parce que il est un peu moins défenseur.
Alors il faut l'associer. Alors il faut faire comme à l'ancienne. Ouais. Il faut l'associer. Associer
avec
un
rugueux,
mais pas du Rüdiger. Mais
Adil, il voulait ça. Ça aurait été quoi ton complément idéal, toi, en défense centrale, dans une défense à deux?
Franchement.
Ouais. Ton complément idéal.
Déjà avec Philippe Mexès, j'ai kiffé.
Avec Mexès,
putain de relanceur.
Ah, mais c'est élégant, c'est la classe, Philippe Mexès.
Par exemple, la nouvelle génération, encore une fois, connaît pas Philippe Mexès, il sert pas.
Exceptionnel.
C'est incroyable. Ben, oui. Mais si un jour, moi très souvent, on pose la question avec qui tu aurais aimé jouer et tout ça, je le dis, je le répète, c'est soit un Ramos, soit un Thiago Silva.
Ah, Thiago Silva.
Non, oui, c'est... Thiago Silva. Après, toi, t'aurais été quand même très complémentaire de Piqué, par exemple. Toi,
Piqué, c'était incroyable aussi. Hein. Après, je me suis toujours posé une question. Est-ce que dans les grands clubs, quand tu sais que t'as une équipe qui explose tout le monde avec les adversaires qui,
est-ce que c'est pas plus facile
quand tu joues dans des clubs, des bons clubs aussi, mais comme c'est Vivaldi,
ouais, je suis d'accord.
Là, t'es dans le but du sujet. Là, t'as du travail.
C'était qui ton meilleur
binôme?
Binôme, ouais.
Ah, ça c'est Philippe Mexès. J'ai tellement kiffé jouer avec lui.
En équipe de France, vous avez pas beaucoup, vous avez pas tant que ça.
Joué quand même. On a joué toute la. Tu sais quand il y a eu l'embrouille du bus, là, ils ont
Ouais, les qualifs pour 2012, vous jouez.
On a fait quand même
l'Euro 2012.
Pas mal de matchs ensemble. Et après, on a joué aussi à Milan ensemble.
Ah oui, c'est vrai.
On a mis le but de fou, là.
Pause. On vient dans un instant. Avec Adil, le dernier quart d'heure, avant de passer à la main à l'after, bien sûr. Avec Walid, Jimmy et Kevin. Et donc, Adil Rami qui est encore avec nous. On vient dans quelques secondes sur RMC, c'est Génération After. À tout de suite.
RMC, 20h-22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Adil Rami est avec nous. Il faut garder l'énergie, ce que disait Adil, jusqu'à la 95e.
Il nous fait des passages pubs.
Toujours exceptionnel. Il est meilleur pendant le passage. Adil, ta chaîne Twitch. Prends 30 secondes pour nous en parler. Oui. Quand est-ce qu'on te retrouve ? T'es connecté tous les soirs ?
Moi, je me connecte tous les jours, mais ça ne plaît pas aux gens parce que je suis sur Call of Duty. Je prends du plaisir, je m'amuse. De toute façon, je ne sais pas me connecter.
Tu joues à quel Call of ? Lequel, là ?
Le Warzone.
D'accord.
Tu vois. Et après, à partir de lundi, tous les lundis, je fais des résumés de matchs de la Ligue 1 et là, bientôt de la Ligue 1.
Et ça marche avec tes abonnés qui te posent des questions.
Ils sont là et regardent mes débriefs. En fait, moi, mes débriefs, il faut savoir que ce n'est pas des débriefs de maths, des résumés normaux comme on a l'habitude de voir en télé. C'est en fait ce que j'apporte. Je suis en train de faire ma pub là où je rêve.
Bah non, mais c'est okay. Ça, c'est ça.
Ah, ok, bah, c'est gentil, quand même. Merci. Pardon, excusez-moi. C'est ce qu'on fait avant les matchs. Et après les matchs en vidéo, c'est les séances vidéo dans les vestiaires des pros.
D'accord.
Et donc j'explique tactiquement, j'explique l'alignement sur les coups de pied arrêtés, sur le marquage hybride, le marquage en zone. Pourquoi j'aime pas le marquage en zone ? Pourquoi je déteste le marquage en zone ? Pourquoi
tu vas prendre un but, tu vas l'analyser, tu vois.
Je vais l'analyser.
Tu vas faire des réactions.
Ah oui, faire ça dans un club au lieu de faire ça sur.
Non, parce qu'en fait, quand tu rentres dans un club, on m'a dit ouais, pourquoi t'es pas entraîneur ?
Non mais même tu vois vidéo
ouais
quoi.
Mais t'appartiens après à
ta parole n'est pas libre vraiment
et aussi. Là je m'amuse
là c'est plus fun c'est plus, ouais, plus fun.
Attends, intéressant on va parler de la minimale dans un instant parce que ça a beaucoup fait parler de toi sur une de tes soirées Twitch. Il y a Mbappé qui disait dans une interview, on l'a débriefé dans l'after hier soir, que en clair le monde du foot parfois peut le dégoûter. Parce que c'est Mbappé, certes, parce qu'il est plus exposé. Il a été plus exposé que toi, ouais, bien sûr, mille fois plus que toi. Mais il a expliqué aussi, je conseillerais jamais à mon enfant de mettre les pieds dans le monde du football. Est-ce que t'es d'accord avec lui? Est-ce que c'est un milieu à ce point toxique? Peu importe le statut.
Alors oui, tout le monde le sait que le football, c'est la jungle. Et ça peut être toxique.
Moi. C'est quoi la jungle quand on est de la jungle, en fait?
C'est que c'est dur.
Les pressions, les intérêts des uns.
C'est dur parce que, en fait, il y a la personne qui va regarder les matchs de foot et prendre du plaisir. Et après, t'as les acteurs. Et les acteurs, nous, ce qu'on subit. Encore une fois, on n'a pas à se plaindre. Hein, parce que
oui, mais t'as le droit de subir quand même.
Mais ce que je veux dire par là, c'est que, donc déjà, t'as la pression de la concurrence qu'on ne voit pas en télé. Quand t'es dans un grand club, t'as toujours de la concurrence, quoi qu'il arrive. T'as les critiques des journalistes. T'as les nerfs, t'as une haine contre eux parce que tu te dis, pour la plupart, ils n'ont jamais joué au foot. Ils te permettent de noter, de te critiquer. La pression des supporters, ce qui est normal. À l'extérieur, tu te fais toujours insulter.
Tout ça.
Et après, il y a tous les renards. Tous les gens, tu ne peux pas vivre comme tu veux, tu es obligé de te cacher, tu es obligé de... Il y a plein de trucs... Alors, ça c'est mon avis. Maintenant, Mbappé qui dit ça de son enfant, moi je peux le comprendre parce que je me mets à sa place. Et lui, c'est fois mille.
Oui, oui.
Fois mille. Et encore, je trouve qu'on est parfois trop dur avec lui. Je trouve qu'on est vraiment dur avec lui. Alors que l'embrouille entre le Paris Saint-Germain, je dirais que c'est un problème de famille, ça ne me regarde pas.
Oui.
Que les Parisiens le en veuillent, pas de problème. Mais aujourd'hui, même les Français... sont toujours là en train de le critiquer, dès que ça va pas on lui tombe dessus
parce qu'on est exigeant avec lui,
parce que il a prouvé, il est arrivé à un niveau, il fait partie des meilleurs joueurs du monde, mais quand on voit les Portugais qui sont derrière Cristiano Ronaldo ou les Argentins derrière Messi,
culture différente,
alors ouais. on doit tu vois,
tu penses qu'il est pas critiqué Ronaldo au Portugal?
J'ai rarement vu critiquer.
Ronaldo, c'est l'icône historique. Il y a eu Zébio, il y a Ronaldo, il y a eu beaucoup de grands joueurs en France.
Je me rappelle de beaucoup de débats avec Nicolas Villas qui disait que c'était clivant, notamment son rôle.
Parce que Cristiano Ronaldo, un petit peu à l'image de Zinedine Zidane, c'est des gens qui ne se sont pas beaucoup positionnés sur des sujets hors football.
Ah, d'accord, moi je parlais de critiques sportives.
Oui, mais attention,
après tout ce qui se passe autour, c'est différent.
Rien ne peut être décorrélé du personnage public que tu es et de l'image que tu vas envoyer à la société.
Parler des émissions foot,
Adil dit en France, on est très dur, ouais, au Portugal et en Argentine, mais j'ai rarement vu Messi ou Ronaldo se positionner sur des sujets. Peut-être qu'ils l'ont fait, mais en tout cas, ça m'est passé inaperçu.
On est dur parfois avec Mbappé, le joueur, parfois aussi le personnage public.
Moi, je parle souvent du. que du joueur.
D'accord. Et Lamine Yamal, t'étais dur avec lui aussi.
En fait, non, j'étais pas du tout dur avec lui. Je vais vous expliquer pourquoi.
Je rappelle quand même, je vais pas dire tout parce que bon,
oui,
voilà,
oui. On va être banni ici.
T'as dit grosso modo, je peux plus me le voir. Tu parles de son comportement.
Alors, avec une grosse insulte.
Ouais, c'est vrai.
Une grosse insulte. T'as été un peu loin.
T'as débordé un peu.
Ouais, bien sûr. J'ai débordé complètement. En fait, parfois, je fais des 5 heures à 10 heures de live par jour. Et c'est vrai que c'est là où je me sens bien libre et. Il faut le savoir pour ceux qui me connaissent, je dis beaucoup de gros mots. C'est une, je sais pas, ça me fait du bien de dire des gros mots.
Tu publies en direct et tu parles comme
et
ça.
Et là, je parle comme ça avec. Ouais. Et en fait, quand tu. Toutes les personnes qui m'ont suivi sur Twitch, c'est un joueur qui nous fait tous vibrer. Ah bon, oui. Quand je le vois jouer,
je vibre.
Ah ouais. Ah, mais je te jure, c'est un plaisir fou de voir ce joueur-là, c'est tellement choquant. Moi, ça me choque.
C'est une attraction.
Il est bon, on connaît, on va pas refaire ses qualités intrinsèquement parlant, hein. Mais surtout le timing qu'il a. De se servir de son extérieur du pied, de son enroulé, les passes dès qu'il fait, le dribble, tout dans un bon timing. Et quand on voit à côté, ben, ce qu'il peut faire, ben, en fait, t'es frustré, tu t'énerves comme si tu t'énervais auprès d'un petit frère, tu te dis, mais t'as des qualités de fou pour prendre plusieurs ballons d'or, et je pense que c'est ce qui va se passer. Et de voir ça à côté, ben, t'es frustré.
Je me suis dit,
merde. Alors, pas de la bonne manière, certes.
Tu parles de quoi, là, les anniversaires,
Tu peux faire des anniversaires, mais il rentre dans plusieurs polémiques, avec sa copine au début, à un moment donné, avec son anniversaire, les nains, et des trucs. Alors, bien évidemment, je déteste, Léon Di.
Oui.
Mais il y a des ondits autour de sa manière de vivre, les soirées, les filles, les machins.
Oui, mais Adil, toi, t'as été un ancien joueur, t'as connu ça. Mmh. En plus, t'as été starifié.
Oui.
T'as été un people. T'as été sollicité à un âge bien plus avancé que Lamine Yamal.
Est-ce
que moi, j'aurais aimé que à ce moment-là, parce qu'on en a pas parlé, et que tu sois peut-être dans la pédagogie, vu que toi, t'étais un ancien joueur, en disant, il a 18 ans, peut-être qu'il fera des erreurs et ça lui permettra d'avancer comme ça, parce que moi aussi, j'en ai fait, et d'être un peu plus indulgent par rapport à sa jeunesse. Et surtout, ce qui m'intéresse à chaque fois que je regarde tes vidéos, c'est quand tu parles de foot. Et là, moi, par exemple, déplacer le sujet sur le foot et sur ce qui se passe dans sa vie privée, etc. Est-ce que c'est notre rôle,
tu as complètement raison. Mais c'est une forme de crainte où tu te dis, putain, on n'a pas envie de perdre notre pépite.
D'accord.
C'est là où je me suis frustré.
Attention, tu dis un mot.
Voilà. Et après, avec du recul, parce qu'ils l'ont pas sorti, bien évidemment, j'ai dit, attention, les gars, il a dit du temps, peut-être qu'il va mûrir. Attention à son entourage. Et ça, je l'avais dit, mais on préfère sortir le.
Adil.
Oui, c'est moi.
Ballon d'or. Hakimi ou Dembélé?
Il y a longtemps, j'avais dit Dembélé, tout le monde s'est foutu de ma gueule. J'avais fait un classement avec Pedri, parce que Pedri, il ne faut pas l'oublier. Quel joueur, on aime trop le foot, mais quel
incroyable.
Joueur. Mais je pense que je vais rester sur Dembélé. Mais Hakimi,
tu vas avoir des soucis.
Hakimi,
hein.
Je préfère dire ce que je pense.
T'as raison.
Mais Hakimi le gagne, ça ne me choquerait pas.
C'est mérité aussi. Hein.
Ouais, sincèrement, c'est.
Alors pourquoi Dembélé plus?
Dembélé, ben pour l'apport offensif, en fait, je sais pas si inconsciemment je me fie aussi à
il va débuter sa saison à un moment ou
ouais, le pauvre.
Parce que le Ballon d'Or c'est sur toute la saison.
Mais je dis que
la saison dernière,
peut-être que inconsciemment,
avec le respect des jours,
il va falloir se réveiller, mais
je me dis que
prouver aussi là direct là maintenant.
Ah d'accord, ok.
Peut-être que inconsciemment, tu vois, je me dis que aussi les Ballons d'Or c'est très souvent 90%, 95% des joueurs offensifs. Donc inconsciemment je me dis ouais, un défenseur ça va être rare. Hakimi, tu vois, on a tous envie, je te dis la vérité, Hakimi gagne le Ballon d'Or. Hein. Vous allez me voir sur les champs faire la fête. Hein. Ça fera pas de moi un supporter du Paris Saint-Germain, mais c'est une fierté. Mmh. C'est une fierté, je suis franco-marocain. Donc oui, mais j'ai l'impression que Dembélé
va gagner. C'est ton gars aussi, quand même.
C'est mon gars aussi, bien sûr.
Je suis content si Dembélé est là.
Hakimi, c'est un défenseur en plus.
C'est un défenseur, c'est rare.
Le Ballon d'Or,
mais
c'est
surtout,
beau quand même.
Au-delà du défenseur, ce qu'il fait avec le Paris Saint-Germain, c'est extraordinaire. De voir un latéral droit capable d'apporter autant offensivement, de faire des pistons, des allers-retours, du box-to-box, et surtout dans des positions qu'on a rarement vues, parce qu'il joue aussi parfois numéro 6, numéro 10.
Et d'avoir été aussi décisif dans des matchs importants aussi.
Marque en Arsenal, contre demi-finale.
Rarement vu.
C'est le joueur du futur.
C'est terminé, Adil, on s'est régalé.
C'était incroyable. Merci
Adil d'être venu.
Merci Adil.
Merci à vous. Tu reviens dans la saison une deuxième fois, peut-être. Six mois, peut-être.
Franchement, ouais, pourquoi pas.
La porte, elle est ouverte. Hein. On sait qu'il coûte très très cher. Nous, on est une petite émission qui se lance. Donc en fait, on n'a pas un énorme budget.
C'est votre première année, les gars.
Quatrième
année, là. Pourquoi tu dis à se lancer?
Non, je sais pas pourquoi.
On En fait, on n'a pas un énorme budget. En plus, Kevin a pris tout l'argent. Mais on peut essayer de faire quelque chose.
Non, mais là, le casting, il est méchant. Parce que même pour toi, c'est bien.
Moi, j'ai juste à bosser 2 heures dans la journée.
Et t'as pas de prompteur et tout.
Non, quand même.
Merci, Adil. C'était un plaisir. Pour écouter un podcast, les 2 heures, on s'est régalé. Il a parlé de sa carrière, les joueurs, les stars qu'il a croisés, de l'OM, bien sûr, notamment de l'équipe de France. Kevin, merci. Jimmy, merci. Walid, merci. Place à l'after désormais. Louis Tour avec Gilbert Rébois, Daniel Riolo et Flo Gautreau. Bonne soirée. Elle continue sur RMC.